song of the rock team.
Enquête de cinéma.
Young girls, they do get weary wearing that same old shaggy dress. Yeah.
Enquête de cinéma. On est jeudi 28 janvier 2021.
A thing that you'll never, never, never possess. No, no.
En quête de cinéma, on est avec les amis David Dion et Fabrice Copin. Et on est très heureux aujourd'hui d'accueillir le cinéaste Christophe Loisillon pour faire une traversée, un chemin, un parcours dans son cinéma.
She had her grief and care. Yeah, yeah, yeah. But the soft words, they all spoke so gentle. Yeah, yeah, yeah. And it makes it easy to bear. Oh, she won't regret it, no, no. Young girls, they don't forget it. Love is their whole happiness.
Enquête de cinéma sur Radio Galère 88.4 et qui sera en podcast sur le site de Derrick.tv. À Marseille, on est au Polygone Étoilé. Alors, par quoi commencer? Parce qu'il y aurait plein de possibilités ou d'entrées. Moi, j'aurais envie de commencer par une chose qui m'a... Tu as travaillé pendant un temps avec Jean Rouch, entre guillemets. En tout cas, t'as suivi quelques cours avec Jean Rouch, qui est connu pour être un cinéaste proche de l'ethnologie. Et à côté de ça, tu as assez rapidement... fabriquer un cinéma qui prenait en compte la question du corps. Et j'avais envie de parler ou de partir de cet écart-là qui m'intriguait. Voilà, pour commencer.
Oui. Alors, comment on pourrait dire ça? Jean Rouch, lui, comme prof, je faisais des études d'économie à Nanterre. Et j'avais, c'était l'époque, c'était en 74 ou 15, et donc il y avait la pluridisciplinarité, et quand on était en économie, on pouvait prendre sur 20 UV, 8 UV de cinéma. Donc j'ai eu Jean Rouch comme prof, et j'ai eu Langlois, donc c'est de très bons profs, et j'avais Strauss-Kahn en économie. Et Jean Rouch, c'était un très bon pédagogue et c'était quelqu'un qui était très très ouvert et il faisait c'était pas un cours en fait à la Cinémathèque qui tous les samedis on projetait des films ou d'étudiants ou des gens qui voulaient montrer un film et il analysait les films mais de manière extrêmement bienveillante et il voyait toujours qu'il y avait des trucs formidables dans les films et c'était ouais, une entrée dans le cinéma très généreuse. Enfin, c'était quelqu'un de très généreux. Et qu'est-ce qu'il m'a appris, Jean Rouch, sans doute? Ce que je retiens de lui, c'est que c'était la distance par rapport aux gens qu'on filmait, les personnes qu'on filmait. Et il pensait qu'il fallait que toujours qu'on soit à la distance où la personne filmée pouvait mettre la main sur l'objectif pour arrêter de filmer. Ça, j'ai retenu ça de lui, et je pense que je suis pratiquement toujours à cette distance. Très souvent, c'est-à-dire je suis la personne que je filme ou peut arrêter le film. C'est ce que j'ai. Mais le travail sur le corps est venu après. Après, les mains est venu. Ça croise d'autres histoires, les mains. C'est pas directement lié à Jean Rouche.
D'accord.
Mais oui, et puis il m'a appris l'économie. C'est-à-dire que il a commencé avec des caméras à ressort. Il a fait Jaguar avec, ou peut-être moins noir, je ne sais pas si c'était encore avec une caméra à ressort, enfin mécanique, pas électrique. Et donc les plans faisaient pas plus de 27 secondes. Et donc il y a eu sans doute une influence sur mon travail après, c'est-à-dire j'ai toujours pris en compte l'économie, mais vraiment, c'est-à-dire que par exemple les mains c'est fait avec une bobine de 120 mètres en 35, c'est-à-dire que je parlerai peut-être des mains plus tard, mais j'ai toujours pensé l'économie, oui, il m'a fait, oui. Et puis Jean Rouche travaillait, il avait fait l'École nationale d'agronomie, il était au CNRS et il avait le droit à des bobines d'inversible. En fait, il a fait avec ce qu'il avait. Donc, c'était toujours. On fait du cinéma avec ce qu'on a. C'est-à-dire que. Je ne peux pas imaginer que c'est prétentieux, mais que des gens m'arrêtent ou que je ne puisse pas faire un film parce que je n'ai pas assez d'argent. C'est qu'on est on n'est pas à la bonne place à ce moment-là. C'est-à-dire que voilà, il faut c'est à la fois prétentieux et humble. C'est-à-dire c'est aussi je fais un cinéma qui est très avec des petits moyens, mais très souvent j'ai plus de moyens que nécessaire. C'est paradoxal. Mais...
Du coup, comment tu t'en es venu à la fiction qui sont des processus, qui est un processus quand même beaucoup plus lourd et qui engendre une économie qui est aussi très, très lourde. Ça vient à quel moment de ton travail, en fait?
En fait, j'ai commencé à faire des films sur des artistes contemporains, sans doute parce que, bon, d'abord j'étais les gens qui m'ont le, enfin, les cinéastes m'ont beaucoup influencé, mais les artistes vivants m'impressionnaient beaucoup, leur travail, j'étais extrêmement proche de j'allais voir beaucoup d'expositions et donc j'ai voulu à un moment donné faire des films sur des artistes donc ça c'était des documentaires, mais il se trouve que la manière dont je faisais les films sur des artistes c'était très fictionnel, c'est-à-dire les films étaient très écrits et je racontais une histoire, c'est-à-dire que c'était, il n'y avait pas d'interview, je racontais je disais en fait comment un artiste se lève le matin et pense qu'il va changer le monde. C'est-à-dire, je racontais toujours la même histoire. C'est-à-dire, ce qui m'intéressait, c'était l'acte de création, c'est comment quelqu'un peut croire qu'il peut changer le monde avec son œuvre. Et donc, je sublimais le travail des artistes. J'essayais de montrer que ben, tout était dans sa tête et comment il arrivait à mettre ça, comment il faisait avec son art, quoi. Donc, la question, c'est comment je suis passé du documentaire à la fiction. Ben, après, j'ai fait deux courts-métrages de fiction et puis, à l'époque, il y avait une idée, dans ma tête, il y avait une idée de « on va faire un long-métrage ». Et puis j'ai écrit un long métrage qui était autour de la peinture, autour des autoportraits de Rembrandt, qui s'appelait Toile de maître, et qui était une exposition de tous les autoportraits de Rembrandt. Rembrandt s'est peint de l'âge de 20 ans à sa mort, et je recréais une exposition qui ne pouvait pas être, qui pouvait pas avoir lieu, et voilà. Et j'ai eu l'avance sur recette, et le film s'est pas fait. J'ai travaillé 4 ans sur ce film, et il s'est pas fait. Et donc ça a été, ça a été une rupture. C'est-à-dire là, je me suis dit, tu peux pas, faire du cinéma et puis ne pas tourner. Donc j'ai voulu, j'ai fait une petite dépression, et puis j'ai voulu faire un film très vite, et j'ai eu l'idée de... je me suis dit, bon, je venais d'avoir un enfant, je me suis dit, mais tu peux pas expliquer à un enfant que tu es cinéaste et puis que tu n'as pas tourné depuis 5 ans. Et donc j'ai voulu faire un film très vite, et ça a été... ça a été le projet des mains et qui a été une vraie rupture, parce que c'était je me suis reposé les questions, le fondement de mon cinéma, c'est-à-dire pourquoi je faisais du cinéma. Et donc il y avait l'idée de, je pense, filmer l'autre, mais c'était plus complexe que ça, parce que les mains, c'est quand même tourné en studio avec Caroline Champetier, donc très, très construit, et en 35, avec une équipe d'une dizaine de personnes, alors que on peut imaginer que les mains, j'aurais pu faire ça tout seul avec une caméra. Le cinéma, c'est pour moi, c'est presque une cérémonie, c'est-à-dire j'ai besoin de travailler avec une équipe. Même si je fais un documentaire très simple, j'ai besoin de travailler avec une équipe, un chef opérateur, un ingénieur du son, quelqu'un au costume s'il faut, quelqu'un au décor. C'est très construit.
Je te coupe, mais on le voit bien en fait dans tes films. C'est, on en discutait avec Lowe juste avant. En fait, le côté extrêmement méticuleux et en même temps cette passion pour le son, la lumière, on voit qu'il y a une attention qui est énorme. Ça renvoie un peu à notre, peut-être notre façon de faire les films. C'est vrai qu'on peut envisager le cinéma comme aussi une machinerie assez lourde, une équipe, etc. Et toi, sur un dispositif qui peut être très très simple, comme tu le dis, avec simplement une caméra, tu envisages toute une équipe, etc. Et donc, d'où vient cette envie de faire aussi de l'esthétique, de l'exigence
Sans doute de ma formation, c'est-à-dire, en fait, j'ai travaillé sur des longs métrages, j'étais assistant monteur pendant 5-6 ans avec Thierry Deroc, qui était chef monteur, et on a monté Série Noire de Corneau, par exemple, ou les films de Christine Pascal. Et donc, c'était des films. Comment ? J'ai vu la grosse machine du cinéma. Les projections de rush, il y avait 20 ou 30 personnes. Donc j'ai vu comment fonctionnait. Et j'ai découvert des choses. C'est-à-dire que, par exemple, au montage, j'ai compris que quand on faisait une VI, une version internationale pour livrer, on faisait beaucoup de bruitage, et même on faisait du bruitage dans les films. Et le bruitage, j'ai passé des semaines dans des Audi, on passait 3-4 semaines à bruiter les films. Et ça m'a passionné. Ça m'a passionné parce que c'était vraiment du cinéma, c'est-à-dire que... Et donc, dans tous mes films, il y a du bruitage. Même dans Les mains, il y en a un peu, mais dans les sexes, il y en a. Je veux dire, même si les gens se grattent, on refait les... Alors, non, dans Les mains, en fait, il n'y en a pas de bruitage. Mais donc, il y a à la fois quelque chose de très sophistiqué et très simple. Parce qu'en fait... Pour reprendre les mains, effectivement, j'ai une équipe, mais je veux que parce que je suis producteur en même temps du film, et je veux que le film coûte rien, parce que j'ai très peu d'argent, donc il est en studio, je paye un petit peu les gens, mais je veux que les rushs soient le film. Donc en fait, on fait 2 ou 3 prises par personne, Mais c'est une bobine de 120 mètres en 35, c'est-à-dire une bobine de 4 minutes 10. Et il n'y aura pas de montage. C'est-à-dire que après, à la fin du tournage, on dit, ah ben on va développer que cette bobine-là, les autres on les met dans le frigo. Et donc, les rushs, c'est le film. On a coupé le début et la fin, quelquefois un peu plus du début ou un peu plus à la fin, et il n'y a pas eu de montage son. Donc c'est mon cinéma aussi toujours entre des moyens, certains moyens, mais une économie et les mains s'est tournée en une journée et deux heures, mais beaucoup de préparation. Donc il y a toujours cette pensée très forte de je veux tourner avec une équipe, mais dans un temps très court, donc extrêmement préparé.
Et tu peux nous décrire la préparation des mains, par exemple?
Ah ben, les mains, c'est un peu spécial. Parce qu'en fait, donc, ce film s'arrête, Toile de Maître, et je me dis, ah non, mais il faut absolument que je fasse un film avant la fin de l'année, on est au mois d'août, et donc j'ai l'idée de... Au tout début, j'ai une idée, je me dis, ah, je vais tourner dans le lieu de tournage de mes amis qui font un film, et je vais faire des portraits d'amis nus, mais sur le plateau, donc je leur demanderai la caméra, je mettrai une bobine de 35, et puis on fera un portrait. Et puis en fait, je me dis, ça va être compliqué, etc. Et donc j'ai l'idée des mains. Et donc je vais voir mes amis, et je leur dis, voilà, je veux faire un film sur les mains de mes amis, je voudrais que tu me racontes l'histoire de tes mains. Alors, le type voit que je suis un peu en crise, ou la fille me dit, oui, mais j'ai rien à dire sur mes mains. Mais si, on va trouver... et donc j'essaye de trouver un récit. J'y réfléchis à ce que, si tu as envie et tout, et puis on travaillera ensemble, et puis on fera un essai en vidéo, et puis à un moment donné on terminera en studio un jour où je réunirai toutes les mains, et puis on tournera. Et puis en fait je fais des essais avec les amis qui veulent bien et tout, et le travail s'élabore, on arrive à un texte que j'écris. Je le monte en vidéo, et puis en fait il se trouve que j'ai de l'argent pour faire un long métrage avec François Cluzet qui s'appelle Le silence de Rack, et donc je peux pas tourner le film en 35, et donc je le tourne 3 mois après avoir fait ce long métrage qui s'appelait Le silence de Rack, ouais. Et donc les gens, c'est 18 mois plus tard, ils me disent, mais je me rappelle plus du tout de ce que je t'ai dit. Et donc, je leur dis, on va tourner dans 3 semaines. Et je leur montre la feuille, ce qu'ils doivent dire. Et puis, ils la lisent. Et puis, je reprends la feuille. Ils me disent, non, mais je peux le relire. Non. Mais je ne vais pas me rappeler de ce que... Si, c'est ta vie. Et voilà. Et donc, les gens savent, en fait, ce qui... Mais c'est un peu... comment dire? Et ils deviennent des acteurs. Ils deviennent des acteurs de leur propre vie. Et bon, et voilà, et il y a le tournage, et on les traite comme des acteurs. Il y a quelqu'un qui va les chercher. Il y a une pression parce qu'il y a une équipe. Le dispositif est assez psychanalytique puisque la caméra est en face d'eux. Tout le monde regarde les mains. Les mains deviennent des acteurs, des actrices. Et donc, voilà, il y a une tension. Il y a une tension, et on sait que, je leur dis que ça coûte cher, c'est en 35, et qu'on va faire deux prises, et que ça va durer 4 minutes 10, et donc il ne faut pas qu'ils débordent et tout. Et en fait, tous y sont, mais incroyablement concentrés, quoi. Donc c'est aussi une manière de mettre en tension les gens qu'on filme, et de montrer qu'ils sentaient que c'était important pour moi et pour l'équipe. Voilà, donc il y a une espèce de, oui, de cérémonie, je pense. Mais bon, dans les mains, il y a aussi un truc, c'est que c'est le cadrage qui est important. C'est le cadre dit beaucoup. C'est-à-dire que le même film, la caméra sur le visage, il n'est pas intéressant. Enfin, il perd énormément de mystère. Donc, je pense qu'il y a, dans mes films sur, autour du corps, le cadre est fondamental. Et c'est, alors ça, je ne sais pas si c'était conscient au départ, si conscient, je ne sais pas.
Et il y a forcément la question du hors-champ, donc.
Oui, du hors-champ, oui. Ouais. Hors-champ du son et même de l'image. Oui. Ben le hors-champ amène un mystère incroyable. Et donc, je travaille beaucoup, beaucoup le hors-champ, oui. Alors, bizarrement, dans les mains, quand j'ai fait les mains en studio, je me suis dit, ah, je vais rajouter un son comme si c'était chez eux. Non. Je pensais à ça comme ça au début. Et puis, Caroline Champetier, qui est une chef opérative géniale, et me dit, quand dans le studio, on avait fait des tables, on avait peintes, elle me dit, mais Christophe, vous voulez, qu'est-ce que vous voulez comme lumière, qu'est-ce que, etc. Et je lui dis, ben, je sais pas, peut-être comme si j'étais chez eux. Elle me dit, mais vous êtes idiot, on n'est pas chez eux, là, on est en studio. Alors je dis, bah oui, alors une lumière de studio. Donc je lui donnais carte blanche. Hein. C'est elle qui a interprété les mains, magnifiquement, incroyablement. Mais elle m'a fait comprendre, par sa remarque, enfin par sa remise, qu'on était en studio, et donc il fallait qu'il y ait un son de studio. Parce que moi, au départ, je voulais mettre un son de ville pour l'un, un son de campagne pour l'autre, etc. Non. Et le fait que le son soit un son de studio fait comprendre au spectateur que ce n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'on est dans un dispositif qui est artificiel. Enfin, pas vrai. En tout cas, donc il a conscience que c'est extrêmement travaillé. C'est du cinéma, que c'est pas pris sur le vif comme ça.
D'ailleurs, tu dis fiction, non, dans ta filmographie?
Je sais pas si, oui. Enfin, peut-être, non, mais en tout cas, je dis que. Bah, très souvent, je dis, quand on m'attaque, on me dit c'est des documentaires ou des fictions, ou qu'on m'attaque. Je dis que je fais des documentaires très souvent en studio, avec des gens qui jouent leur propre rôle ou des acteurs. Mais il y a d'autres gens qui ont travaillé comme ça. Il y a comment? Ah, un néerlandais. Ah, je ne sais plus comment. Jorgen Leth, L-E-T-H, qui a mal tourné après, mais qui faisait des studios, qui faisait des films en studio, qui amenait. Le plus grand cycliste avec son vélo dans le studio, et puis il faisait des portraits d'eux, ou un mec avec sa vache, ou un mec avec sa voiture. Oui.
Mais j'ai découvert ça. Oui. Mais donc, après, là, ce que tu racontes sur les mains, et ça m'amène ça comme question. On dit plein de choses sur ce qu'est le cinéma, mais ce qui fait que. Quel est donc ton rapport à la question du montage?
Alors, c'est bizarre parce qu'en fait, j'ai quand même commencé par le montage. J'ai monté le premier court-métrage de Carax et j'ai monté pas mal de courts-métrages. Et après, j'étais assistant sur le long-métrage. J'ai pas continué. J'ai pas voulu monter de long-métrage. J'ai voulu réaliser. Question du montage. C'est lié à plusieurs choses. C'est-à-dire que c'est lié au plan séquence. Il y a une contradiction entre le plan séquence et le montage. Et quand j'ai fait Opalka, alors peut-être Opalka, je l'ai fait pour un plan. Quand je suis rentré dans le 4 millions. Quand je suis rentré dans l'atelier d'Opalka, j'avais vu son œuvre dans des dans des galeries. Tout de suite, je me suis dit, enfin, je l'ai vu, je me suis dit, mais c'est la mort chiffre. C'est-à-dire que s'il meurt là, ça sera, c'est là. Et puis, bon, j'ai regardé son travail et tout, parce que on voyait dans la toile où il s'était arrêté. Puis bon. Et très vite, j'ai compris, je lui ai dit, dès le premier jour, je lui ai dit, mais Roman, vous allez, il était à 3 900 000 quelque chose, je lui ai dit, vous allez passer 4 millions quand? Et puis il m'a dit, je sais pas, il a fait un rapide calcul, et là il s'est aperçu qu'il allait passer, on était au mois d'avril, et qu'il allait passer en octobre. Et j'ai compris tout de suite que j'allais faire un film sur les 4 millions. Mais j'ai compris qu'il fallait que je filme bien le passage des 4 millions. Et c'était très 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 dur, parce que en fait, il peint avec des tout petits noms, et donc il fallait qu'on soit... que le spectateur comprenne, rentre dans la tête de voilà. Et donc, on a construit un travelling, un banc-titre de travelling très compliqué, pour passer les 4 millions. Et en fait, il fallait construire trois planchers, un pour la toile, parce que un pour Opalka et un pour la caméra, pour que la caméra ne saute pas. Et donc, tout le film, c'était... le passage des 4 millions, et je savais que le plan allait durer 3 minutes et quelques. Il a duré 3 minutes 42, voilà. Et donc il y a eu ce plan qui était un peu fondateur et qui était un peu inconscient. Mais parce que Opalka, c'est génial quand même, c'est le meilleur scénario. Parce que le cinéma, c'est quand même filmer du temps. Ça peut se définir comme ça uniquement. Et là, vous avez un personnage principal qui compte le temps. Donc, c'est pas mieux. Vous avez l'acteur et en plus le scénario. Et en plus, un scénario génial parce que vous savez pas ce qui compte. Donc, du mystère, plein de choses. Enfin, tout ce qui m'avait bouleversé dans son travail. Donc, il suffisait bien le filmer, d'être dans. De faire rentrer le spectateur dans la tête d'Opalka, dans ce passage des 4 millions, que c'était, et de faire comprendre qu'il avait passé 3 millions 7 ans avant, et rentrer dans sa folie, dans voilà. Donc ça a été... je m'en suis rendu compte après que c'était un plan, enfin que c'était un truc important, et que ça avait fonctionné, c'est-à-dire que... les spectateurs me disaient, c'est incroyable le plan des 4 millions et tout, il y a une tension incroyable alors qu'il ne se passe rien, enfin il y a juste un mec qui compte et qui est assez drôle, c'est, il ne s'arrête pas à 4 millions, évidemment il continue 4 millions 1, 4 millions 2, 4 millions 3 alors qu'on pense que voilà, c'est l'arrivée et c'est 4 millions donc voilà et après, je pense le montage, l'absence de montage ou le refus du montage, je ne sais pas comment l'appeler, c'est venu de l'économie, c'est-à-dire peut-être de Jean Rouch qui dit on peut faire qu'un plan avec on a 27 secondes, il faut faire le plan et donc oui très vite, mais il y a aussi j'ai d'autres maîtres, enfin Cavalier par exemple, quand je fais les mains. Je fais donc, je tourne avec des bobines de 120 mètres en 35, et Cavalier lui fait les portraits de femmes, et son dispositif, je ne le sais pas, c'est trois bobines de 120 mètres en 16 par portrait d'une demi-journée. C'est-à-dire qu'il fait deux métiers de femmes par jour. Il a repéré et il a une économie comme ça. Et ça me... c'est ma construction, c'est-à-dire que il faut que le dispositif de tournage ou de soit très très précis. Mais je ne sais pas si j'ai répondu à ta question sur l'absence de montage. Après, il y a pourquoi je mets du noir entre les plans. C'est vraiment aussi une espèce de refus, de, c'est-à-dire de... Non, alors il y a un autre truc, c'est que le montage, oui, je veux que ce soit le spectateur qui le fasse. Donc, si vous ne collez pas deux plans, parce que d'habitude au cinéma, le montage, vous guidez le spectateur, vous mettez un plan après les autres, et puis donc vous le guidez dans le chemin de son regard, etc. Et moi, je veux que ça soit global. C'est-à-dire, je mets 5-6 plans, entrecoupés de noir, mais des plans de 4 minutes. Et en fait, après, donc le noir fait qu'on peut sortir du plan d'avant pour re-rentrer dans le plan d'après. Et le spectateur fait à la fin du film peut-être la construction. Mais je le guide aussi, hein, je le guide. Et puis
tu reviens à une question de rush alors, d'une certaine manière, pas loin.
Oui, 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 de trucs un peu. Mais bon, ça veut pas dire, oui, les rushs, mais ça veut dire que quand même les plans sont extrêmement construits.
Oui, oui, c'est pour ça que c'est pas des rushs, mais dans cette, oui. Cette notion.
Ben non, il y a aussi après il y a le plan séquence, c'est le temps et c'est. Même si si tout est travaillé et tout est un peu artificiel, etc., bah, la continuité du temps fait qu'il y a une crédibilité du documentaire. Il y a un va-et-vient entre le documentaire et la fiction.
Attends, réexplique-le moi, ça.
Par exemple... Souvent, les gens me disent, mais est-ce que tu as dirigé les mains ? Tu vois, quand j'ai fait les mains. Je dis, non, j'ai pas pu. Si, je l'ai fait une fois avec Madeleine, où je lui ai dit, enlevez vos mains. Ou quelquefois, je faisais comme ça avec mes mains, comme un chef d'orchestre, en disant, arrête. C'est-à-dire, je leur disais, moins tu parles, mieux c'est. L'important, c'est les silences. Mais, c'est-à-dire, quand ils disent quelque chose de dramatique sur la mort de leurs parents ou une rupture amoureuse ou quelque chose de plus grave dans leur vie, ben, il faut qu'il y ait un temps pour que le spectateur digère cette émotion, etc. Et donc là, il ne se passe rien, en fait. Les mains restent seules, ne bougent pas. Et c'est hyper important. C'est-à-dire, c'est... je ne sais pas si je... répond à ta question. Non, et donc là, bah, tu retombes dans... T'as l'impression que c'est du documentaire, même si c'est travaillé. C'est-à-dire que t'as une émotion qui dure dans le temps. Même si elle est... je sais pas forcément... Je sais pas si elle est construite, mais elle est... C'est-à-dire que ça devient des acteurs. Ils doivent, pendant 4 minutes... dire leur vie, la vie de leurs mains. Donc il y a c'est pas des prises comme en fiction de 8 secondes ou de 20 secondes où tu dois donner une réplique et puis non, tu dois tenir les 4 minutes. Donc non, le plan séquence, non mais le plan séquence est forcément lié au montage et au temps. Ouais, c'est une évidence, mais...
Et cette question du temps, il y a des cinéastes qui travaillaient cette question, qui t'ont marqué, ou elle est venue comment ? Tu nous as dit le cinéma c'est filmé du temps, c'est venu petit à petit.
Oui. Non, tout le cinéma expérimental, expérimental, Warhol, Sleep. L'Empire State Building, Michael Snow, Long Wave, qui est un long zoom sur une photographie dans un appartement qui dure une heure. Donc c'est une fascination du temps, oui. Mais qui était plus... j'ai plus été marqué par des cinéastes américains expérimentaux, Stan Breckage, mais lui, il est moins sur le temps, sur le plan séquence. Et même Warhol, quand il fait les screen tests, c'est-à-dire à la Factory, Et ben, c'est une bobine, il fait un portrait d'une bobine de 30 mètres en 16, avec une Bolex ou une Beaulieu, où il filme tous les mecs qui passent ou toutes les filles qui passent. Donc, mais c'est encore une économie, c'est un truc d'économie, c'est-à-dire un truc de temps et d'économie, c'est-à-dire c'est, oui. Bon, après, il y a les Russes.
Et donc, ce truc de temps et d'économie, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, j'ai l'impression, et puis aussi, quand tu cites ces autres cinéastes, c'est comme si derrière ça, il y avait la question, la question de la nécessité de filmer et de faire des films comme quelque chose de très fort qui rythme le quotidien, quoi.
Ah oui, ça c'est absolument fondamental. Je le disais tout à l'heure à Fabrice. Je suis obligé de faire des films. Enfin, je suis obligé. Non, mais je ne sais faire que ça. Je sais pas. Mais j'ai. Il faut que je fasse. Alors, pour plusieurs raisons. Bon, d'abord. Durer sur son lit de mort dessine sa main gauche avec sa main droite. C'est-à-dire que. Et il y a des cinéastes aussi qui. C'est-à-dire que. Ouais, c'est une nécessité. C'est une nécessité de faire des films. Mais c'est une nécessité. C'est une nécessité. Comment dire. Artistique ou voilà ou mais c'est une nécessité économique, il faut faire des films parce qu'ils font vivre. Alors si tu deviens un peu riche, c'est un peu emmerdant parce que tu dis ah je vais plus avoir cette nécessité, en fait tu l'as encore, tu vois, c'est à dire que mais faut faire, enfin j'ai jamais été l'argent m'a pas En fait, j'ai eu peur qu'à un moment donné, si j'avais de l'argent, je ferais, tu vois. Et en fait, c'est pas vrai. C'est-à-dire, je suis aussi excité de faire des films. Même si je n'ai plus besoin totalement de vivre, tu vois, de mes films. C'est il faut pas le dire, ça, mais j'ai...
Donc, il y a une nécessité très forte, existentielle,
ouais,
quand même,
ouais,
qui est plus forte
que
tout.
Oui.
D'une manière, pour toi, d'habiter le monde par le cinéma.
Oui. C'est un peu chiant à vivre, pour les femmes ou pour
les
amis, mais voilà. J'ai fait un film sur... ma mère, j'ai pas fait un film d'ailleurs, en fait, j'ai filmé, je la filmais, voilà, elle est morte il y a 10 jours. Je la filmais régulièrement. Bon, ça, c'était pas construit, mais il y avait quand même un rapport avec elle, avec l'image, oui. Oui, j'ai filmé mon père, j'ai filmé ma fille, j'ai pas filmé mon fils. Mais oui, enfin ça c'est pas... Mais c'est... Oui, il y a une nécessité. Je peux pas... Si on me disait que je pouvais pas faire de film, je sais pas ce que je j'aurais peut-être pu... Oui. Non, il y a une nécessité. Alors, c'est aussi parce que... Il y a une autre nécessité, c'est que, comme je dis, j'ai envie de filmer avec une équipe, et j'ai un devoir de réunir cette équipe tous les ans, même si c'est que 3 jours. C'est-à-dire j'ai un devoir de parce qu'ils veulent faire des films avec moi, je veux faire des films avec eux, je veux leur intelligence, ils veulent mon intelligence, ils vont amener un truc au film, j'en suis persuadé, c'est pas le film serait pas le même si j'étais pas avec eux. Et y a un truc, il faut que je produise pour faire un film. Il faut que je produise de que ce que je vais filmer. Donc c'est, je m'en fous de comment dire, il faut que je trouve quelque chose à filmer. C'est-à-dire, mais c'est parce que j'ai été beaucoup influencé par des artistes, c'est-à-dire que l'artiste il produit de toute façon, et il n'y a pas de, et j'ai beaucoup de mal à penser que je peux pas filmer parce que c'est une question d'argent. Je pense toujours mes films en disant si j'ai pas d'argent, comment je vais faire pour filmer ça? Là, je vais faire un film sur mon escalier, enfin l'escalier de mon immeuble, parce qu'il y a un ascenseur qui va être construit, donc qui va détruire la cage d'escalier. C'est un film que j'ai mis beaucoup de temps, j'ai mis pas mal de temps à l'écrire, et en fait, que j'ai de l'argent ou pas, je le faisais. Parce que j'avais imaginé, et l'opérateur m'a dit, mais c'est pas parce qu'on va avoir de l'argent qu'il sera mieux. C'est-à-dire que très souvent, j'ai eu trop d'argent pour mes films. Bon, mais j'ai eu trop d'argent parce que en fait, j'ai de la chance. J'aime bien écrire mes films. Ils sont très précis. Ça correspond à un scénario. Et j'aime mettre mon désir de cinéma sur papier pour le construire. Donc, écrire sur mes films m'a aidé à penser mon cinéma aussi. Après, il faut faire gaffe que ce ne soit pas une perversité pour avoir de l'argent.
Tu l'as appris comment à écrire ?
J'ai appris avec Santiago, mon associé Santiago Amigorena, avec qui j'ai ouvert une maison de production qui s'appelait Les Films du Ras, justement. Quand le premier long métrage s'est arrêté, on a coproduit le second. Donc j'ai écrit de la fiction avec lui. Mais c'est pas tellement ça, parce que ça c'était des dialogues, ça m'amusait et tout. Mais j'ai écrit à mettre. Non, mais un peu seul. Un peu seul en me concentrant, alors que j'étais pas très bon au début, mais parce que je voulais l'argent. C'est-à-dire que en France, bon, c'est le pays au monde où c'est le plus facile de faire du cinéma, mais ça passe quand même par l'écrit. Donc il faut que tu arrives à convaincre par l'écrit de la nécessité de tes films, donc de ton désir. Et qu'en fait, les décisions sont collégiales. Donc c'est des commissions, comme là on est autour de la table, et il y a une évidence, c'est-à-dire tu lis un truc et on dit « Ah, ce mec, ouais, c'est vraiment, on a envie de voir le film ». Alors, ça ne veut pas dire qu'un bon scénario, quelque chose d'écrit, va donner un bon film. Et ça veut dire qu'il y a des gens qui ne savent pas écrire qui vont faire de bons films aussi. Mais n'empêche que... Et puis peut-être je pense que ça se recoupait. C'est-à-dire que j'ai recoupé mon cinéma avec l'écrit. C'est-à-dire que comme je tourne en plan séquence, ben j'essaye de décrire un plan séquence par page. Je fais une page, un plan séquence. Un peu comme Francis Ponge. Je veux dire, j'ai l'impression d'être... je dois décrire mon désir de cinéma et ce que je veux filmer comme quelque... de manière très littéraire, mais imagée, mais que ça soit très... Donc je mets beaucoup de temps à écrire. Pour écrire 10 pages, je mets un an. Mais je prends du plaisir. Thank you.
revenir sur la question de tes plans rapprochés, parce qu'en fait, tu t'évoquais Jean Rouge sur cette distance, etc. Mmh. Mais je me demande si... Enfin, je voulais savoir si derrière, il n'y avait pas une autre raison plus intime, en fait, pour toi, dans cette je ne sais on peut pas dire obsession, mais en tous les cas, cette nécessité d'être très près. Parce que tu parles du... Enfin, on a évoqué le hors-champ dans ton cadrage, et en même temps, moi, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est quand même le sujet est très concentré, et donc ce qu'on y voit, c'est, on pourrait dire que c'est minimal, et en même temps, c'est très plein, c'est-à-dire qu'il se passe tout au centre du film. Et donc, il y a comme ça, j'ai l'impression, une nécessité pour toi.
D'être prêt.
Ouais. Et j'aimerais savoir si tu le sais intimement, à quoi ça correspond pour toi, ce désir de filmer de très près.
Moi, je ne pense pas que c'est une histoire de près ou de... c'est une histoire de cadrage, mais... de près... Non, mais je filme l'intime. Donc, tu peux dire que l'intime, c'est près. Mais quelquefois j'ai dû filmer l'intime en plan large, plus dans mes fictions.
Est-ce que ça a à voir avec ton regard dans la vie ou pas, ou est-ce que t'as déjà fait des liens entre de comment tu regardes le monde toi et cette décision de cadre?
Non, alors je pense que non, mon regard dans la vie, c'est... Je pense que c'est mon incapacité à filmer le groupe. Le groupe et même plus de deux personnes. C'est-à-dire que quand j'étais en fiction, je me rappelle, j'étais avec un scénariste, il décrivait une séquence avec cinq personnes. Je dis, ah non, mais je suis incapable de filmer ça. Non, je peux pas. Je n'y arrive pas. Non. Pour moi, c'est... Mais même dans la vie, moi, j'aime le rapport à deux, mais dès qu'on est plus que deux, bah, je fais le clown ou je joue quelque chose d'autre. Donc, y a peut-être ça, mais... non, je pense que c'est plus lié au cadre aussi, dans le fait que je... ou au détail, c'est-à-dire que je pense que je veux bien regarder, je veux que le spectateur regarde bien, je veux lui montrer ce qu'il ne voit pas. Donc, même un visage, c'est-à-dire que la caméra, quand j'ai filmé les visages, par exemple, si tu regardes ta petite amie ou ton petit ami pendant 4 minutes, il va dire, mais tu veux ma photo, enfin bon, là tu mets une caméra, et eh ben oui, tu es dans un rôle de voyeur ou de, tu vois, de et pareil pour les mains, pareil, alors les mains ça dit autre chose, tu vois, ou les pieds, ou les sexes, ou même corpus, mais ce que je veux montrer peu de choses, mais je veux que quand le spectateur regarde, ce que d'habitude il ne voit pas.
Ouais, ça me fait penser à ce que dit Bruno Dumont à propos de la caméra, en disant que c'est un super objectif pour les yeux, pour voir ce qu'il ne voit pas, justement, ce que l'être humain en général ne peut pas voir.
Oui, donc c'est pour ça que quand tu me dis est-ce que tu es comme ça dans la vie, je suis comme ça parce que je veux voir les gens seuls. Voilà, c'est tout. Je veux avoir un rapport très privilégié. Oui, très privilégié. Et je suis très vite... les gens... J'ai un rapport très... comment... concentré quand je suis avec quelqu'un. Et donc, les gens se livrent. Oui, je suis. J'ai les gens se livrent parce qu'ils se sentent en confiance ou ils sentent une attention. Mais je les dévore en même temps. Enfin, je les dévore. Je les mange. C'est-à-dire, c'est ma nourriture.
Et tu les aimes aussi.
Un peu, pas beaucoup. Mais non, mais non, non, mais c'est-à-dire que ils me font vivre. Pas opiniâtre, mais je tape là où ça fait mal. C'est-à-dire, je vais chercher la personne là où elle a des difficultés, ou là où... voilà, donc je sors, par exemple, dans les mains, je sors des choses... Ou par exemple, voilà, dans les pieds, le premier, le berger Peul, Bella, j'étais avec Moussa, qui travaillait avec moi au Mali, et qui me dit, je connais, il faut qu'on aille voir Bella... C'est un berger et qui a jamais mis de chaussures. Et donc, il marche pieds nus, etc. Et je dis à Moussa, mais il est con, pourquoi il ne met pas de chaussures? Je veux dire, tout le monde met des chaussures maintenant. C'est con. Et donc, on va le rencontrer. C'était assez long. Et puis, je lui dis, bah, dis-lui que moi, je trouve ça, tu vois, pas con, mais bon. Et donc, il a été vexé. Et donc, le fait qu'il soit vexé, ben, il m'a fait comprendre que c'est moi qui étais con de mettre des chaussures, parce que il m'a décrit ce qu'il sentait avec ses pieds, c'est-à-dire la fraîcheur de la terre, les caresses des épines, de l'herbe, qu'il connaissait les saisons par ses pieds, que à un moment donné il dit que ses pieds sont le nombril de son âme. Enfin bon, là j'ai pris une claque, je me suis dit, ah oui, t'as vraiment beaucoup perdu d'avoir des chaussures. Donc, effectivement, comment dire, j'ai le sentiment que quand je rencontre quelqu'un, ça va, on va peut-être plus se voir. Donc, il faut aller vite, quoi. Enfin, aller vite, oui, il faut aller à l'essentiel.
Non, sinon, j'ai juste pour terminer là-dessus, tu as l'impression d'être plutôt quelqu'un de contemplatif ou pas? Est-ce que tu passes beaucoup de temps à observer quelque chose, à regarder vraiment un truc, enfin d'avoir un regard un peu fasciné, ou etc. Est-ce que tu es un peu comme ça ou pas?
Non. C'est-à-dire que je me sers du cinéma. Non, mais je sens... Je fais du cinéma parce que je manque de sagesse ou de... Comment? Par exemple... Non, pour regarder. C'est-à-dire, je regarde pas... Alors, non, il y a plusieurs choses. C'est que je pense que je vois tout. J'aimerais... Il y a des moments où j'aimerais être aveugle pour ne plus voir. Parce que je vois tout. Dans la rue, je vois tout ce qui se passe. Et il y a trop à voir. Et donc, j'essaie de me focaliser... pour voir un truc. Donc effectivement, je cadre quelque chose à voir très précis par le cinéma. Mais de la même manière, c'est mieux quand je fais un film. Bon, alors corpus, c'est un corps qui prend soin d'un autre corps. Donc j'essaie de cadrer, de comprendre ce qui se passe entre deux êtres. Et quand je fais Homo animal, ou Homo végétal, ou Homo minéral, c'est parce que c'est mon manque. C'est-à-dire que je n'ai plus de relation avec les animaux, je n'ai plus de relation, parce que je suis un urbain, avec le végétal, je n'ai plus de relation avec le minéral, et je me sens pas orphelin, mais je sais que je suis plus petit. C'est-à-dire qu'il y a un siècle, on serait venus tous à cheval, on aurait eu des rapports avec les animaux, on serait amené des carottes, on aurait eu un rapport au monde différent. Et là, je sens que ce rapport au monde, je ne l'ai plus. Mais je ne l'ai plus. Mon père, déjà, je ne sais plus tuer. Je ne sais pas tuer hein, une poule. Je ne sais pas tuer un lapin. Je ne sais pas traire une vache. je sais pas, couper un arbre. Je sais pas, les pierres, je connais pas. Voilà, ce que les générations d'avant connaissaient. Et donc ça, je sens qu'en tant qu'urbain, je suis très perverti. Et donc j'essaye de retrouver de revenir à un rapport au monde, ben en tout cas d'essayer de le comprendre et de le filmer.
C'est peut-être pour ça que tu as ralenti aussi beaucoup.
Oui, voilà. Et donc c'était mieux. Je suis ce que tu dis de la contemplation, c'est que ben, ça prend du temps, ça. C'est-à-dire regarder un menhir où tu vois et te dire ah, il existait, tu vois, au début de l'homme, il est vieux de. C'est inimaginable. Ou une pompe à essence, et se dire ah, ça vient du pétrole, donc ça vient de millions d'années, tu vois, je sais pas, un coquillage, etc. Donc c'est à la fois. C'est pas qu'intellectuel, ça devient physique. Mais c'était mieux, c'est une connaissance que je n'ai plus. Donc j'essaye de retrouver une contemplation et une sensualité.
Oui, il y a une forme de sagesse en fait dans ton cinéma, parce que enfin de sagesse au sens où c'est vraiment un regard, total en fait sur une partie de corps ou sur une partie d'objet, qui fait qu'on a la totalité de ce, on a le temps d'avoir la totalité de ce qui est, quoi. C'est
c'est la métonymie, c'est essayer d'exprimer quelque chose par le détail pour essayer de comprendre le tout. Mais bon, c'est une forme, mais c'est aussi j'aurais bien aimé faire de la philo ou de comprendre le monde, de le penser. Donc j'essaye de le penser avec mon outil, le cinéma, tu vois, et que ça soit toujours, oui, de le penser et de le rendre visible et sensuel.
C'est très beau que tu aies réussi à avoir de l'argent, en fait, une économie à travers un cinéma comme ça, parce que, parce que c'est vraiment complètement à rebrousse-poil d'un cinéma, j'allais dire, qui se vend en fait, parce que c'est tout est ralenti et tout va à l'inverse de ce qui est souvent attendu en fait dans le cinéma. Donc et en même temps il y a comme ça une magie aussi à travers ça, et oui, ça donne beaucoup d'espoir en fait, je trouve, de quelque chose, c'est très positif en fait.
Non, mais là où tu as dit, c'est effectivement par rapport au plan séquence, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que c'est aussi une réponse politique aux images. C'est-à-dire que.
Au flux
d'images. C'est-à-dire que c'est une réponse politique dans le fait que le déferlement. Bon, je suis presque raciste par rapport au cinéma américain. C'est-à-dire, je m'engueule avec beaucoup de gens. Parce que quand quelqu'un me dit « Ah, t'as vu tel film ?» ou je dis non, je ne vais pas voir de film américain. Enfin, ou très rarement, ou les expérimentaux. Parce qu'il y a un chef-d'œuvre par semaine, je ne peux pas suivre. C'est-à-dire, et quand je vois les bandes-annonces des films américains, mais c'est tellement toujours la même, et toujours une espèce de... voilà, de saturation, mais c'est pareil avec les séries. Je m'excuse, je suis très réactionnaire et j'ai un rapport, je vois pas de série, parce que pour moi la série est faite comme c'est des dealers, enfin c'est des mecs, c'est des dealers, comment dire, industriels d'Hollywood. Ou français, Canal Plus ou TF1, enfin, je veux dire, quand les gens disent ah, je me suis fait 4 saisons ce week-end, non, mais c'est terrible, c'est vraiment tout ce que je. C'est pas. Ça n'a rien à voir avec ce que je fais. C'est-à-dire qu'on croit que c'est de l'image, mais c'est... Donc, effectivement, le plan séquence, peut-être... Il y a des séries, paraît-il, formidables, avec des plans séquences et tout. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est fait comme de la cam. C'est-à-dire que la première saison, il faut vous accrocher, et puis on vous la file gratis, et puis après, on vous... Il y a un truc... Et puis, il n'y a plus d'auteur derrière, quoi. Il y a une construction économique... Mais la FEMI, c'est un département de scénario...
Série.
C'est très bien, mais c'est de l'industrie.
Et toi, à quel moment tu as eu conscience qu'il fallait que tu construises ton indépendance? Et comment tu l'as construite?
En devenant producteur, c'est-à-dire avec Santiago, c'est-à-dire qu'on a compris que le premier film qui s'est arrêté de long métrage, on s'est dit plus jamais ça, le prochain...
Et est-ce que tu peux nous décrire brièvement
plus jamais ça? On a eu l'avance avec une maison de production, hein, et c'était sans doute pas le... C'était une maison de production connue et c'était pas forcé que c'était pas de leur faute, c'est-à-dire que ils se sont dit il y a eu peut-être 150 000 euros ou 200 000 euros dépensés pour pas faire un film et ils se sont dit il faut mieux de perdre 150 000 euros. Ils venaient d'avoir un succès, ils avaient développé 4 films, ils en ont fait 2. Il faut mieux dépenser, perdre 150 000 euros que d'en perdre 400 à l'arrivée, et c'est normal. Donc, je me suis dit, plus jamais ça. Et surtout que j'ai vu des gens qui n'avaient pas eu d'avance, alors que moi, je l'avais eu, mais qui avaient fait un film. Donc, je me suis dit, plus jamais tu dois te faire... tu as été payé à ne pas faire un film.
Mais pourquoi ils se sont dit qu'ils allaient perdre de l'argent si c'est le film?
Parce que peut-être que, tu vois, ils ne croyaient pas assez au film, ils n'avaient pas eu Canal ou voilà, etc. C'était un problème. Et c'est compréhensible. Donc, je me suis dit, je ne veux plus être dans... Quand j'ai fait un long métrage, et à un moment donné, le distributeur montre les deux affiches qu'il y avait, c'était le dernier jour et tout, il me dit, elles sont toutes les deux formidables. Les deux affiches étaient monstrueuses, mais inimaginables, et jamais j'aurais pu imaginer d'avoir une affiche aussi moche. Et je me suis dit, plus non, pas ça. Et puis, quand vous ne faites pas d'entrée, on ne vous parle plus, quoi. C'est-à-dire que à 14h, on sait, vous savez ce que vous valez sur le marché. Et donc, ça ne m'intéressait vraiment pas, mais vraiment pas. C'est-à-dire que je me suis dit, non, je n'ai plus envie de faire de long métrage.
Mais tu as quand même eu l'ambition d'aller...
Parce que à l'époque, mais dans mon premier film, il est pas mal, mon premier long métrage. Mais mon deuxième, je pense que j'ai fait deux... j'ai fait une comédie, c'était... Mais voilà, c'était...
T'as voulu jouer quand même le jeu de la question de cette logique dans
d'économie.
Laquelle on est conditionné. Pas d'économie, mais cette logique dans laquelle on est conditionné que pour se légitimer ou être légitimé en tant que cinéaste, on passe par le long métrage.
Oui, c'était à l'époque, je veux dire, c'était la voie, on faisait des longs métrages et puis on faisait des courts métrages pour faire des longs métrages. Et après, à un moment donné, je me suis dit, mais c'est totalement absurde, moi ce que je veux, c'est filmer tous les ans et puis un long métrage et un court métrage, je m'en fous complètement. J'ai pas besoin, j'ai pas un ego de la reconnaissance sociale. Ça me fait évidemment que ça me fait plaisir que j'ai envie d'être reconnu par les gens que j'aime. Tu vois, je veux dire, quand je vois votre site, évidemment, j'ai envie d'être parmi vous. Mais dans le long métrage, être dans le film français ou j'en sais rien, ou au César, non, ça m'intéresse vraiment pas. C'est-à-dire que. Mais ne disons pas de mal des gens.
Comment tu t'es construit cette indépendance alors?
Je suis associé avec Santiago Amigorena, qui est un écrivain, donc qui écrit pour lui. Quand je lui parle, on, On a une maison de production depuis 25 ans, mais quand je lui parle, je lui dis « t'arrives à écrire, c'est tout, on parle pas de cinéma ». Et lui, il sait que je fais mes films, mais c'est des... Voilà, c'est des... On a pu imaginer faire de... Ça nous intéressait pas de faire des... Lui, il en a fait aussi des longs-métrages, mais je pense que c'est l'écriture. Donc il y avait une... Avec Santiago, on s'entendait bien. On savait que ce qui nous intéressait, quoi. Il y avait un jeu social aussi. Il y a eu. Mais moi, je c'était mes films. Non, très vite. Et puis j'avais... Ma formation, ça avait été quand même des artistes contemporains, donc qui sont indépendants, etc. Donc, et, mais j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis privilégié parce que je suis extrêmement soutenu par Christophe Taudière qui s'occupe du court-métrage à France Télévisions, France 2, et qui est sensible à mon cinéma. Et donc c'est incroyable. C'est-à-dire c'est incroyable parce qu'il peut rentrer dans des... Il est sensible à ce que je fais, donc il m'a soutenu. Et je sais écrire. Je sais écrire, je sais mettre mon désir sur moi. Et on est en France. C'est-à-dire, quand tu dis... c'est-à-dire, je pense que je sais pas comment j'aurais été, quel cinéaste j'aurais été dans un autre pays. C'est-à-dire, j'ai été soutenu, hein, quand même. Je me vis comme un petit cinéaste soviétique. C'est-à-dire... voilà, je suis un petit cinéaste d'État. Au sens où l'État soutient
la création.
Non, oui, soutient le cinéma. C'est-à-dire que, mais ça vient de Malraux, de après la guerre, de penser que il faut contrer la puissance américaine, le mode de vie américain, chewing-gum, cinéma, Coca-Cola. Et de lutter contre ça, et on a été le seul pays européen à mener ça à bien, et ça n'a pas été remis en cause par aucun gouvernement, ni de droite ni de gauche. Je ne sais pas si ça continuera, mais en tout cas c'est très fort, quoi. Et je suis le produit de ça. Après je ne dis pas que je suis le produit de ça. Est-ce que j'ai été influencé artistiquement par ça? Je ne sais pas. Comme ça, je dirais non, mais forcément, quand on voit l'art, il y a des vagues, enfin bon, je ne sais pas. Bon, Non, je suis très conscient qu'on est dans un pays... c'est pour ça que je ne suis jamais dans la plainte, parce qu'on peut pas être dans la plainte en France sur le cinéma. C'est pas possible.
Et sur la diffusion de tes films?
J'ai beaucoup de chance parce qu'ils sont diffusés sur France Télévisions, enfin pas mal de mes films. Après, il y a des films qui vont dans des festivals, il y en a d'autres qui vont pas. C'est absolument pas grave. C'est-à-dire que je peux, par exemple, Corpus, il a été à Venise, il a été à Clermont-Ferrand, il a eu des prix, il a été dans plein de festivals. Le film que je fais après, Homo Animal, il va dans aucun festival. Homo Végétal, il va dans aucun festival. Et puis, il y a une fille qui fait une maîtrise sur uniquement Homo Animal et Homo Végétal 8 ans plus tard. Donc, je veux dire... Bon, la sagesse de la vieillesse fait que je prends ça de manière extrêmement légère. C'est-à-dire qu'un film aille dans un festival ou pas, c'est vraiment pas important.
Mais pour toi, par contre, quel est, quand tu vas dans un festival, moi, quel regard tu portes sur la question de la diffusion de ces films comme les films que tu fais, qui sont des objets... on va dire très très singulier, très atypique. Qu'est-ce que ça te... Voilà quoi, la traversée de ces festivals avec tes films, justement ce passage où un film est immensément diffusé à un autre pas, ou qu'est-ce que ça te... Qu'est-ce que tu pourrais nous raconter dessus pour...
Je sais pas. Non. Le système, il a besoin de mes films. C'est très très, c'est très prétentieux là, hein, d'un seul coup. Non, mais je veux dire. Il a besoin de regards. On ne peut pas singulier. Donc, effectivement, je pense que, de fait, j'ai un regard singulier. Pas parce que je suis un grand cinéaste, mais parce que, comme Fabrice disait, la place de ma caméra, elle est omnibilée, elle est un peu. Elle s'acharne. Donc, et je ne sais pas. Donc. Au bout d'un certain temps, ça fait sens. Je dis pas, parce que c'est je me disais dans le train en venant, c'est bizarre de parler de son travail. Moi, j'ai pas pensé mon travail de manière globale. Là vous m'interrogez sur mon travail 30 ans ou de film. Mais quand j'ai commencé, vous dites, vous connaissez pas le chemin que vous allez faire. Oui, je suis un peu obsessionnel où je continue à. Voilà, donc. Je fais. Oui. Et quand on me dit. Alors, quelquefois, dans les commissions ou dans les festivals. Loisir, on fait toujours la même chose. Oui, c'est vrai. Mais c'est pas un défaut. Enfin, c'est pas. Donc voilà, je sais pas quoi. C'est pas. L'important, c'est-à-dire, non, ça demande un travail, c'est-à-dire qu'il faut réunir tous ces films et tout. Quand tu m'as demandé de présenter mes films, il fallait que je les retrouve, que je les mette ensemble, donc c'est un travail. Mais ce qui m'intéresse plus, c'est le film que je veux faire là dans 2 mois, enfin que je vais faire sur mon escalier, et celui que je suis en train d'écrire après. C'est-à-dire que c'est toujours, je suis en production, je suis pas je suis pas en train de regarder ce que j'ai fait derrière, je le pense, mais c'est bon, voilà, c'est j'ai envie de tourner, j'ai envie de faire des films.
Et ton organisation, elle est comment? C'est-à-dire que tu écris plusieurs films en même temps, tu tournes, tu...
Alors, je travaille. Tous les jours, 2 heures. Je fais un travail administratif de producteur le matin, un peu. Et puis, l'après-midi, je vais travailler 2 heures dans une bibliothèque, tous les jours, pour écrire. Donc ça, c'est 2 heures de j'essaye de m'abstraire, sans ordinateur ou sans téléphone, et de penser, à ce que je veux faire.
Et c'est toujours à la même heure?
Oui. Ouais. 16h, 18h. C'est un peu embêtant, parce qu'elle ferme là à 17h30. Donc,
voilà. Tu écris du coup sur un carnet?
J'écris sur un cahier. Et quelquefois ça va vite, quelquefois ça va pas vite, quelquefois ça met beaucoup de temps. Et je pense, oui, et de quel film j'ai envie de faire. Quelquefois j'ai 2 films d'avance, quelquefois 3. Et puis surtout, il faut tourner, il faut trouver l'argent après, donc déposer dans des commissions, en parler. Et j'ai une équipe, c'est-à-dire que j'ai la même équipe depuis 10, 15 ans, 15 ans, 15 ans, 20, presque 20 ans. Et donc, ils attendent. Ils attendent que je fasse un film et c'est. Et ils veulent, et donc je me sens, j'ai un devoir vis-à-vis d'eux. Je sens, tu vois, que je dois tourner, faut que je tourne.
Et la fréquence alors des films?
Quand j'ai arrêté le long métrage, je me suis dit, pour en vivre, il faut que tu fasses un film par an. J'ai à peu près tenu un peu, c'est un an et demi. Donc oui, ça demande une discipline. Et après, il y a des moments de... Là, je parle comme si c'était très calme et tout. Il y a des moments où je suis complètement allumé. Hein. Je veux dire, quand quelquefois, tu n'arrives pas à écrire ou tu arrives à écrire, mais tu vois, tu sens que... Et que tu vas pas pouvoir... Une fois, j'ai débarqué, j'ai demandé à Taudière de France 2 de de le voir pour lui. Il m'a dit, mais non, mais envoie-moi le scénario. J'ai dit, non, mais je veux te voir, je veux te parler d'un film et tout. Il dit, mais ça, c'est pas comme ça et tout. Et je l'ai presque obligé à me voir. J'ai été dans son bureau et en un quart d'heure, je lui ai décrit le film. Et j'étais vraiment allumé. Et il m'a dit, ok, envoie-moi ce que tu vois, ce que t'as écrit. Et en fait, c'était Corpus qui a été... à Venise, après, à Clermont-Ferrand, enfin, quand c'était... Le film était écrit, mais il y avait un tel désir de... Il ne pouvait pas m'arrêter.
Et ça te sert, cette tension, en fait, ou est-ce que tu... C'est à la fois un poids de dire il faut y arriver, ou c'est vraiment quelque chose qui te motive aussi?
Oui,
est-ce que tu aimerais, quelquefois, avoir plus de temps pour le faire, ou pas, en fait? C'est bien comme ça.
Non, c'est bien. Là, j'ai plus de temps, mais en fait, ça manque. Non, j'ai envie de tourner. J'ai envie de tourner. C'est-à-dire que si je tourne pas une fois par an, je suis triste de pas tourner, de pas réunir l'équipe et de pas penser le cinéma. Parce que je pense j'ai besoin d'eux, mais ils ont besoin de moi, parce qu'on a besoin de parler de cinéma. On a besoin de savoir comment on va faire un plan, de réfléchir, et c'est vraiment un travail d'équipe très important.
Donc tu ne dois pas faire un film où tu le prépares pendant 3 ans, quoi, 4 ans.
Non, il y a des films qui ressortent, mais... Ben, les sexes, par exemple, j'ai mis... Bon, c'était... Les sexes, c'était dur de passer à l'acte, c'est-à-dire de... Et c'est pratiquement le premier assistant, parce que je lui ai dit je faisais un film de fiction, court-métrage, et je lui ai dit, écoute, j'aimerais bien faire la première partie des sexes, je pense que je peux le faire, mais j'ai pas l'argent, je sais pas comment faire, est-ce qu'on demande à l'équipe? Et il m'a dit... Ok, j'en parle à l'équipe. Et il est revenu, il m'a dit non, mais l'équipe est d'accord, donc on fait une journée. Donc c'est moi qui ai là été obligé de préparer le film, etc. Donc le film s'est fait, c'est presque le premier assistant qui a été Simon Grasse, qui a été producteur du film, quoi. C'est-à-dire voilà. Mais c'était un peu dans la tradition, mais là c'est l'inverse. Dans la tradition, en fait, du long métrage, avant, les courts métrages se faisaient. C'était le premier assistant qui avait le droit à 2 jours de tournage à la fin d'un long métrage avec l'équipe et quelquefois les comédiens du film pour faire son court métrage qu'on mettait avant le long métrage. C'était un peu une tradition dans les années 70.
D'accord.
Donc, non, mais j'ai besoin l'intelligence d'un opérateur, d'un ingénieur du son, d'une décoratrice ou d'un décorateur, d'un premier assistant. Mais c'est fondamental. C'est fondamental.
Ouais, ça te nourrit, ouais.
Ouais, ça me nourrit. J'ai besoin de travailler avec une équipe. Je suis pas... C'est ça, la formation bizarre que j'ai eue, c'est à la fois d'être très proche d'artistes plasticiens et à la fois d'être dans le cinéma... lourd, professionnel des équipes de 40 personnes et de voir chaque métier. Je suis fasciné par des machinaux, des électros et des bruiteurs. Je suis fasciné.
Chaque savoir-faire.
Ouais, vraiment.
Mais justement, d'ailleurs, c'est une question qu'on t'a pas posée, mais c'est bien de la poser. On arrive vers la fin de l'émission. Comment t'as rencontré le cinéma? Est-ce que ça a été quelque chose, un moment, putain? Qu'est-ce que tu pourrais nous raconter rétrospectivement à ce sujet-là?
Non, mais je faisais pas mal de photos. Bon, j'étais traumatisé par... J'avais un père qui était une famille un peu de... Comment dire... D'ingénieurs polytechniciens, centraliens, et que si on faisait pas polytechnique ou centrale, on était vraiment con. Donc je savais que j'étais con. Mes frères aussi, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on ferait pas ça. Et on nous l'a fait très vite comprendre. Et donc, mes deux frères, j'ai un frère qui a été commissaire-priseur et puis un autre qui fait de l'architecture. Donc, on est passé par des biais. J'ai fait de la photo et tout. Et puis, j'ai voulu faire du cinéma très vite. Godard m'en a empêché un peu. J'ai vu tous les films de Godard, je devais avoir 22 ans. Enfin, j'ai vu en une semaine. Et là, je me suis dit, bon, il faut que tu arrêtes là.
Pourquoi ?
C'est pas possible. C'est-à-dire que pendant le film, je voyais, je me disais, j'aurais fait ça, et tac, il le faisait. C'est-à-dire que c'est juste impossible, quoi. C'est-à-dire que je sortais, mais dépité de... Et j'ai fait un cauchemar dans la même année. C'était un mois d'août et tout. Et c'était Godard qui m'empêchait de faire... C'est-à-dire que j'avais plus le droit de faire des films. Mais surtout, j'allais au cinéma et les mecs me sortaient avec des flingues pour que j'aille pas plus au cinéma. Et donc là, je me suis réveillé un jour et je me suis dit, ah non, c'est encore le grand maître qui... Donc c'était Godard qui m'empêchait de faire des films. Et j'ai dit, mais ça c'était très rationnel, j'ai dit, je serai cinéaste, le meilleur Loision sera meilleur que le plus mauvais des Godard. C'est-à-dire que j'ai commencé par humble, quoi. Et voilà. Et donc, j'ai... C'est-à-dire que c'était... c'est terrible, hein, de voir qu'il y a des cinéastes avant vous qui ont tout... Enfin, qui ont... Donc, pour trouver sa voie et pour croire en soi, c'est difficile. Mais je l'ai tué, hein. Il n'est pas mort encore, mais Jean-Luc, mais fait encore des films, en tout cas.
Ce qui est assez admirable.
Oui, c'est extraordinaire. Non, mais...
Parce que c'est quand même des fraîcheurs.
Oui, et il m'a appris... lui, sa vie, c'est le cinéma. Donc, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Cavalier aussi, hein, je veux dire, voilà. C'est les maîtres aussi. Je suis derrière... Des maîtres qui ont... Oui, qui ont été... Bon, mais Carax aussi, par exemple. Il a voué sa vie... On voit des gens qui ont tout donné au cinéma. Voilà.
Merci.
Alors voilà, c'était un peu le mot de la fin pour cette émission Enquête de cinéma qui sera diffusée sur Radio Galère 88.4 et qui sera en podcast sur le site de Dérive.tv qui, Dérive.tv en ce mois de janvier 2021, fait un honneur à plusieurs films de Christophe Loisillon qui seront sur le site et en première page pendant plusieurs mois. Merci beaucoup Christophe.
Merci à vous.
Voilà, tu repars dans la Drôme, je crois.
Oui.
Voilà.
Adieu Luffy.
Adieu Luffy. Merci Fabrice. Merci David. On vous souhaite une bonne écoute. Au revoir. Thank you.